BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité de ce soir, c'est Bruno Bonnel, secrétaire général de France 2030. Pour Bruno Bonnel, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Si je vous ai demandé d'être là, d'abord, c'est un peu l'heure de faire un bilan. Ça fait 2 ans que vous êtes à la tête de France 2030. On sait qu'il y a des nouveaux défis qui ont été, pour France 2030, qui ont été fixés par le gouvernement et le président Macron. Il y a l'intelligence artificielle, il y a le nucléaire. Mais là, on parle beaucoup de vous en disant, mais tiens, 54 milliards d'euros... Ça fait, il y a forcément quelque chose à gratter. On sait qu'on est dans une époque où on cherche un peu tout azimut, ou du moins Bruno Le Maire cherche tout azimut. Il faut bien trouver 20 milliards, paraît-il, d'économies d'ici très peu de temps. Et bien ça y est, on les a trouvés. France 2030, on va vous raboter une partie des crédits qui vous sont alloués et qui n'ont pas été justement donnés aux entreprises.
Écoutez, aujourd'hui, sur ces 54 milliards, il y en a 30 qui ont été engagés par le gouvernement. Ils ont été décidés lors du PLF de 2021 d'une façon globale et donc un peu sanctuarisée. Et en tout cas, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas eu d'annonce sur ce que vous appelez un rabotage. Par contre, on a à faire notre part aussi. Oui. Notre part aussi, elle est un peu différente. Elle est que si nous soutenons de l'audace créative, des nouveaux projets, des nouveaux produits, c'est avec un contrat vis-à-vis des entreprises que nous soutenons. Et dans ce cadre-là, notre travail à nous, ça va pas être d'être raboté, ça va être d'optimiser la dépense publique et de faire attention à de la bonne dépense et pas justement de faire de la gabegie sur des projets qui ne verraient pas le jour.
Parce que c'est ce que vous faites aujourd'hui,
c'est
de la gabegie.
Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous vous lancez dans une aventure où vous prenez du risque,
oui,
vous
avez, attendez, vous avez forcément des échecs. J'ai joué au ministre de l'économie et des finances, c'est pas un bon argument. Si j'ai envie de vous raboter 5 milliards, sachant qu'il y en a que 30 milliards qui ont été engagés, eh ben je vous les prends. Et puis je vous dis, mais attendez, c'est formidable ce que vous faites. Et puis simplement, on a le temps, c'est France 2030, donc on verra après les agences de notation.
Si c'était aussi simple, mais ce n'est pas aussi simple, et vous le savez, c'est pas le ministre des Finances qui va décider, c'est quelque chose qui a été voté par le Parlement d'une façon définitive, avec un objectif à 2030. Donc non, ce n'est pas aussi simple, on ne peut pas décider d'une façon arbitraire de couper dans des budgets. Donc la question, c'est plutôt de se dire, il faut réfléchir à la bonne et à la mauvaise dépense. Les dépenses d'investissement d'avenir pour la France sont importantes et critiques. Ne les mélangeons pas avec des économies à faire sous des dépenses qui sont sans impact pour le
donc
futur.
Donc personne aujourd'hui, Bruno Bonnel, ne vous a demandé, parce que c'est ce qu'on entend, pardonnez-moi, c'est pour ça que je vous pose la question, ne vous a dit, tiens, on regarde parce qu'on a besoin, la situation est critique, il faut que tu nous aides, on a besoin, parce que les PLF, excusez-moi, là, ils se sont assis sur tous les PLF 2023, 2024, etc. Non, c'est...
Personne ne m'a demandé, parce que tout le monde est conscient de l'importance de ces budgets pour l'avenir. L'impact du plan France 2030 par une autorité indépendante en juin dernier, il y a 6 mois, c'est un impact sur le PIB d'entre 50 et 80 milliards par an à l'horizon 2030. On ne veut pas handicaper ce futur-là. Aussi, en faisant des espèces de rabotage à court terme sur des investissements d'avenir...
C'est ce qu'ils font sur MaPrimeRénov', sur le logement...
Ce qui se passe dans les ministères n'est pas de mon ressort. Moi, je travaille pour la France de 2030 et en solidarité avec le gouvernement, c'est-à-dire que l'idée de dire, par contre, on va optimiser les dépenses, on va réfléchir la vitesse à laquelle on va les exécuter, et on va faire attention, justement, à leur impact, ça me semble plus important que les raboter.
Donc, vous dites, il n'y a pas de menace.
Non.
Ok. Non, mais moi, ça va comme ça.
Ça peut pas être plus clair.
C'est gravé. Non, mais c'est gravé dans. Voilà.
C'est gravé dans la pellicule, comme
c'est gravé dans la pellicule. Absolument gravé dans BFM Business. Lorsque vous regardez, parce que vous avez investi, si on regarde le bilan, on rentrera dans le bilan, mais d'abord, une autre question d'actualité. Mais ce qu'on regarde, vous avez accompagné pour l'instant 3748 entreprises. Donc, c'est quand même beaucoup. Vous êtes entrepreneur vous-même, ou du moins, vous l'avez été. Même un serial entrepreneur. Lorsque vous voyez que là, le CAC 40, qui franchit pour la première fois les 8000 points. Dingue. Et puis vous voyez la croissance, Christine Lagarde vient de le dire, la croissance européenne qui passe de 0,8 à 0,4. On voit que la croissance française pour 2024, justement, Bruno Le Maire aussi l'a revue à la baisse. Vous dites quoi? Vous dites que...
Je dis que deux choses. Je dis d'abord, méfions-nous des algorithmes. On sait très bien qu'à cette vitesse-là, la vitesse où ça va, on a une espèce de mécanique qui s'emballe, haussière actuellement, elle peut devenir baissière demain. Donc moi, c'est un indicateur que je considère comme finalement relativement peu significatif de l'état réel de l'économie. On est effectivement dans un trou d'air pour deux raisons. La première, c'est que l'investissement en capital privé dans les entreprises petites, moyennes et audacieuses a fondu. Aujourd'hui, il y a une espèce, on se replie sur les grosses boîtes. D'où le phénomène du CAC 40 d'ailleurs. Ça, c'est un problème critique. Un pays ne peut pas compter que sur son gouvernement pour faire le financement des entreprises audacieuses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'en termes de consommation avec l'inflation qu'on a aujourd'hui, effectivement, les gens font des choix, font des tri, et ça impacte considérablement l'activité économique. Et donc, ça préoccupe. Bon, ben, on le sait, en économie, il y a des phases, il y a des cycles. Bon, ben, on est plutôt en bas de cycle.
Et est-ce que vous dites, il y a un trou d'air, vous le sentez auprès des entreprises que vous accompagnez?
Je sens un trou d'air très clair sur la recherche de financement complémentaire aux subventions que le gouvernement propose aux entreprises innovantes. Ça, c'est clair. Combien d'entreprises m'appellent en me disant, Fedel, c'est formidable, on a obtenu 2 millions, 3 millions de subventions sur un projet formidable, mais on ne trouve pas le capital en face, parce que vous savez que les subventions doivent être ajustées par des fonds propres qui leur correspondent, c'est la règle, c'est une loi, on ne peut pas en déroger, et ils disent, on ne trouve pas. Et par contre, on ne peut pas faire et la subvention et le soutien en fonds propres.
Donc ça bloque.
Donc ça bloque
le développement de France 2030.
Mais non, ça bloque pas le
développement. Parce que vous dites subvention, de l'autre côté, il faut des financements.
Non, mais c'est pas le développement
qui bancaire qui suivent.
C'est pas le développement de France 2030 qui est bloqué. Le développement de France 2030, c'est de donner les moyens à des entreprises d'oser et de dérisquer leur audace. Ce job-là, il est fait.
Oui,
ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est que l'investissement.
Il manque l'autre partie, c'est ça que je veux dire.
Oui, mais ça, je peux pas forcer tous les investisseurs privés du pays à le faire.
Donc on les banques aujourd'hui, elles ne jouent pas le jeu. Ou elles sont trop frileuses.
Je dirais plutôt que les fonds d'investissement. La deuxième ligne, c'est la banque, mais pour d'autres raisons, parce qu'une banque a des règles du jeu et elle veut des sociétés qui soient saines pour les soutenir. Mais les fonds d'investissement aujourd'hui vont plutôt vers le CAC 40, on le voit, ou rien du tout. Ou vont dans l'attente plutôt que d'aller sur de l'investissement de sociétés françaises innovantes.
Rapidement, les chiffres clés, si on fait le bilan des deux, parce que maintenant ça fait deux ans que vous êtes, vous, à la tête de France 2030, Bruno Monnel, c'est quoi grosso modo les chiffres? Donc 30 milliards d'engagés, on
30
sait
30 milliards d'engagés, 7 milliards de décaissés, ce qui est normal parce que les projets sont sur 3, 4, 5 ans, donc il y a un cycle de décaissement. Comment ça, c'est pas beaucoup?
7 milliards sur 30, voire sur 54, ça fait pas...
Non, mais 7 milliards de décaissés, 30 milliards d'engagés, c'est comme, si vous voulez, quand on fait un gros projet à, par exemple, 100 millions, on en débloque 20% la première année, on regarde si les objectifs sont atteints, on en redébloque 20%, etc. Donc, ça s'étale. Donc, un ratio de 20% à peu près d'engagement au bout de deux ans me paraît pas complètement farfelu. Il est assez cohérent. La deuxième chose à dire, c'est 60% hors Île-de-France, 46% de PME, de TI, donc de petites boîtes, contrairement à des plans d'investissement d'avenir d'avant, qui est plutôt orienté sur les grosses entreprises, qui représentent moins de 20% du soutien. Le sol, c'est les centres de recherche et les centres de formation. Ça, c'est la grande photo. Maintenant, si on regarde plus précisément sur les secteurs, nous sommes sur le chemin de nos 2 millions de véhicules électriques. On a sécurisé 1 million sur les deux avec les gigafactories et les entreprises qui maintenant commencent à avoir toute la chaîne de valeur pour la construction de voitures électriques sur le sol français.
Oui, mais gigafactory, c'est pas vous.
Mais bien sûr que c'est nous.
Vous avez investi combien dedans?
Ça dépend des gigafactories, mais on doit être à pas loin de 2 milliards aujourd'hui, cumulé sur les gigafactories.
Oui,
donc la zone de Dunkerque, notamment, est revitalisée. 17 000 emplois créés sur ces gigafactories. Ça veut dire une dynamique qui est réellement... Mais dans les secteurs vraiment nouveaux, les petits nucléaires, on soutient 9 technologies françaises différentes aujourd'hui. Bien sûr, il y aura de la filtration, mais on est dans un décollage du petit nucléaire français. Pas les EPR, qu'on appelle les SMR, c'est-à-dire les petits,
les
petites centrales. Dans le biomédicament, on doit sécuriser 20 biomédicaments. On a déjà sécurisé une dizaine aujourd'hui. C'est-à-dire on fait des médicaments à partir de la biologie et non plus à partir de la chimie. L'agriculture, où les phytos sont remplacés par des produits plus naturels. Donc, vraiment, une dynamique qui se passe sur le pays.
Et comment vous travaillez? Parce que, on sait, moi, souvent, c'est des remontées qu'on a d'entrepreneurs qui vous disent, en France 2030, c'est très bien, mais les dossiers sont quand même compliqués à remplir. En plus, si vous demandez à vous solliciter des prêts à côté ou des financements, c'est d'autres dossiers encore à remplir. Donc, en fait, ça veut dire, vous avez des tonnes de dossiers à remplir, alors qu'on n'a pas vraiment le temps lorsqu'on est entrepreneur, et c'est pas vous qui allez dire le contraire.
Oui, vous savez, dans ma vie d'entrepreneur, j'ai levé beaucoup d'argent.
Ah, je sais.
Ben, j'ai eu des tonnes de dossiers à remplir. Oui. Ça veut dire qu'à chaque fois, il faut se présenter, faut faire des dettes.
Je croyais qu'on était dans l'ère de la simplification.
Non, mais,
des économies et de la simplification.
Depuis que je suis en charge, depuis 2 ans, on a divisé par 2 le temps de réponse des dossiers sur France 2030. C'est-à-dire qu'on est passé à 6 mois. 6 mois pour de l'argent français validé sur de l'expérimentation, je trouve ça très honnête. Je mets au défi quelqu'un qui cherche de l'argent auprès de privé, de trouver de l'argent en moins de 6 mois, à part dans sa famille proche. Je les mets au défi. On a, et là-dessus, ça veut dire qu'il y a des experts spécialisés qui travaillent, il y a un règlement qui est fait dans une compétition qui est saine et égalitaire. C'est beaucoup plus simple que ça lui était. Et tant mieux. Maintenant, on va pas faire non plus n'importe quoi avec l'argent des Français. Donc moi, mon devoir, c'est une vigilance. Et c'est vrai que les chefs d'entreprise savent que c'est pas si simple de trouver de l'argent. Et que c'est un chemin un peu de croix. Maintenant, France 2030, c'est aussi une compétition. Ceux qui disent c'est impossible à faire et c'est trop compliqué, ben c'est ceux qui ne sont pas lauréats. Parce que quand on est lauréat, ben on ne regrette pas le temps qu'on a passé à remplir des dossiers.
D'accord, donc c'est un petit tacle à ceux qui sont mécontents. Quels sont un peu les nouveaux défis? Parce que je crois que c'était le 11 décembre dernier, déjà ça remonte. Emmanuel Macron était allé à Toulouse, parce que Toulouse, on sait bien, c'est une région extrêmement dynamique. Je crois que vous avez même déjà dépensé 1,2 milliard sur cette zone-là. Il a fixé un peu les nouveaux défis, les nouvelles zones importantes pour vous. Et il y a notamment le nucléaire, vous en avez dit un mot. Et puis il y a la technologie, le quantique. Mais maintenant, nous, on voit tous les jours, en plus sur BFM Business, on ne parle que de ça, il y a l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous faites pour l'intelligence artificielle? C'est la question que je posais du reste à Nicolas Dufourcq, avec qui vous travaillez, le patron de BPI France, parce qu'il y a des fonds qui seront investis, mais c'est minuscule par rapport aux fonds qui seront investis par nos amis américains. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que la France compte?
Alors, aujourd'hui, dans le quantique, nous soutenons 5 sociétés différentes, avec 5 technologies quantiques différentes. Mmh. C'est un domaine excessivement compliqué à expliquer au grand public, dont je ne vais pas m'y lancer, mais pour simplifier, il n'y a aujourd'hui pas de définition de la technologie qui va gagner. Ce n'est pas comme dans le microprocesseur, où on sait maintenant que c'est à base de silicium et que ça roule, etc. 400 millions de levées à l'échelle française sur des start-up du quantique. 400 millions. On n'est pas ridicule. 20% des ordinateurs quantiques vendus dans le monde sont français. On n'est pas ridicule. C'est-à-dire que c'est autant que les Canadiens et c'est juste derrière les Américains. On n'est absolument pas ridicule dans ce domaine et je pense qu'il faut véritablement...
Les Américains, ils ont investi combien dans le quantique?
Probablement avec 1 zéro de plus.
Oui.
Oui, mais les Américains, c'est un continent. Si on regarde maintenant ce qu'ont fait les Allemands, les Italiens, les Espagnols, les Français, etc., on est dans le part. Nous faisons, les Français, notre part. Par contre, là où vous avez raison, c'est que ça devient des défis continentaux, comme l'espace, par exemple, qui a été effectivement donné à Toulouse par le président de la République comme une grande direction, et qu'il faut continuer d'une façon obsessionnelle à encourager l'Europe à travailler autour de ces sujets.
Oui, mais enfin, maintenant, dans l'espace, ça fait partie des domaines, le spatial, des domaines qui vont être rabotés, justement, par le ministre de l'économie.
Donc, voyez,
en disant, ben voilà, lorsqu'on voit un peu les déboires européens, on se dit que... Hop, un petit coup de rabot.
Ben, oui, mais nous, à l'inverse. Vous voyez, France 2030, c'est à l'inverse. On surinvestit dans l'espace aujourd'hui. On met 1 milliard d'euros sur la table pour les micro-lanceurs. On a 9 sociétés de micro-lanceurs qui ont été sélectionnées. L'objectif d'avoir un micro-lanceur français d'ici 2030. Hyperspace vient de tester ses moteurs. Il pense lancer l'année prochaine. C'est encore une fois un pari qu'on fait avec France 2030.
Bruno Bonnel, je reviens un instant sur l'intelligence artificielle et les robots. Ce matin, il y avait le patron de Téléperformance qui disait « Mais attendez, il faut pas complètement fantasmer, arrêter les fantasmes sur l'intelligence artificielle et sur les robots. » Vous étiez le patron de la filière robotique. Vous avez créé une entreprise de robots, donc vous connaissez ça par cœur. Est-ce que les robots vont remplacer l'être humain et est-ce que l'intelligence artificielle va nous faire disparaître?
Dans certains domaines d'activité, les robots vont remplacer les humains et tant mieux. Pour des tâches pénibles, répétitives. On le voit d'ailleurs déjà dans les entreprises. J'ai visité une entreprise il n'y a pas longtemps où des robots portent des charges lourdes, plient des tôles qui sont impossibles à plier, etc. Par contre, quand on lit IA, beaucoup de gens lisent intelligence artificielle. Mmh. Moi, je dis c'est intelligence augmentée. C'est-à-dire que par rapport à la
générative, c'est ce qu'on dit.
Oui, mais augmentée au sens que ça augmente nos capacités humaines. Mmh. Et je pense qu'il faut vraiment la regarder comme étant un dynamiteur de méthodes passées, ouvrant des portes incroyables sur des nouvelles méthodes. Et partout où il y a eu des robots installés dans le monde, historiquement, notamment au Japon et en Allemagne, on n'a pas vu d'impact pour l'emploi. On a vu des translations d'emplois. D'où l'importance du plan compétences et métiers d'avenir qu'on a aussi dans France 2030, 2 milliards d'euros pour la formation et la reformation des gens, parce qu'on ne fera pas une robotique et une intelligence artificielle efficace sans une pédagogie et requalification des gens.
On n'a pas le temps, tous les jours il se passe quelque chose de nouveau.
Écoutez,
on n'a pas le temps.
Justement, moi je sais, je suis un vieux de la vieille en tech. Hein. On n'a pas le temps, je l'ai entendu toute ma vie. Je m'aperçois qu'il y a même des cycles d'adaptation, des cycles d'acceptabilité. C'est pas la peine de faire le. C'est le lièvre et la tortue, la technologie. L'important, oui, c'est celui qui gagne la course à la fin.
Il y a une vraie révolution avec l'intelligence artificielle, quand même.
La révolution
de l'acceptabilité, elle n'est pas là, je suis d'accord avec vous, mais en même temps, ça continue.
Non, mais là.
Ça rentre partout, ça s'infiltre partout.
Mais
ça
évidemment,
change tout.
Mais évidemment, mais rappelez-vous, on disait exactement la même chose du numérique et du digital. Mmh. Or, il a bien fallu 20 ans d'adoption et on n'a pas été les derniers en logiciel, loin de là en France. Donc, je crois que je vous reprends l'histoire du lièvre et la tortue. Il y a beaucoup de gens qui annoncent des choses et qui partent devant. Il y a des gens qui sont un peu plus pépères. À la fin de la route, on sait qui c'est qui gagne.
Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous faites sur l'intelligence artificielle?
Alors, en dehors du plan...
Sur le quantique, on a compris. Là, vous êtes très fiers de vos investissements, de vos 400 millions.
Non, mais non seulement je suis très fier, mais la réalité,
les
c'est
Français
qu'on a,
sont très bons.
On a reçu aujourd'hui, je l'ai introduit ce matin, Q2B, qui est la conférence internationale sur le quantique, qui est à Paris, où il y avait tous les internationaux qui sont venus pour écouter et reconnaître la qualité française en ce domaine. Mmh. Donc, c'est pas juste anecdotiquement, on est fiers d'avoir mis de l'argent. On a des vrais talents, des vraies compétences. D'ailleurs, on a deux prix Nobel, deux années de suite, dans le quantique, qui sont français. Donc, je crois que c'est quand même important à souligner. Sur l'IA... L'IA, ça doit être l'intelligence artificielle, et pour moi l'intelligence augmentée, elle doit être de partout dans toute la chaîne.
Oui.
Elle peut aussi bien être dans l'agriculture, que dans la robotique, que dans l'industrie et la décarbonisation ou l'hydrogène. L'important, c'est de comprendre que c'est une nouvelle manière de mieux produire, de mieux être efficace, enfin d'être plus efficace dans nos cycles de production, de mieux finalement vivre et se réinventer.
Oui, et qu'est-ce que vous faites?
Mais
je
qu'est-ce qu'on fait?
Ma question.
Non mais qu'est-ce qu'on fait? Je fais le
vous,
travail.
Vous France
que
2030
je fais
pour d'autres. Contre vous.
Ouais. On investit, on met de l'argent derrière les sociétés, qu'elles soient dans l'intelligence artificielle. On vient de conclure 3 années d'un investissement qui s'appelle Confiance IA pour donner des outils et des méthodes d'estimation d'intelligence artificielle.
Donc c'est des programmes en fait.
Des programmes bien sûr. Ouais. Et on soutient des centres de recherche, on soutient de l'application notamment robotique avec des logiciels qui sont capables de piloter ou des robots ou par exemple des satellites. C'est-à-dire qu'on a un travail qui est un peu derrière le rideau de soutien à la technologie d'IA.
Un dernier mot, il nous reste une minute, Bruno Bonnel, sur l'agriculture, parce que France 2030, vous investissez aussi dans l'agriculture. Mmh. Comment, en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez,
on s'adresse, c'est 2 milliards.
On n'imagine pas tellement. Donc,
déjà, c'est 2 milliards d'euros.
Bah, c'est énorme, 2 milliards d'euros, pour le coup.
Pour l'agriculture, c'est 2 milliards d'euros, oui. 1 milliard déjà engagé. Oui. Dans quoi? Transformation des phytosanitaires vers des méthodes qui soient plus acceptables pour la planète, très important. Capacité et résilience alimentaire, donner aux agriculteurs des nouvelles méthodes et surtout, travailler avec eux avec des moyens. On vient de le faire avec une coopérative qui s'appelle Vivcessia, dans lesquelles on leur donne des moyens d'oser aller vers une agriculture plus durable, plus saine, et on compense le différentiel de prix pour qu'ils puissent trouver des débouchés. Parce que c'est bien juste de financer la recherche, c'est mieux de financer le business. Et en agriculture, on a bien compris cette équation-là.
Oui, c'est sûr. Merci beaucoup Bruno Bonnel d'être venu ici nous expliquer un peu ce bilan et qu'en quoi vous n'êtes pas menacé par Bruno Le Maire qui ne va pas raboter votre budget. Merci Bruno Bonnel, le secrétaire général de France 2030, était notre invité.